Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver cet après-midi. J'aimerais aussi saluer ceux qui sont en ligne. Il ne faut pas les oublier. On a tendance à parfois les oublier un petit peu, mais ils sont là aussi. J'entends dire ici ou là que les cultes reprennent dans les églises. Rendons grâce à Dieu pour cela. Remercions le Seigneur aussi pour sa parole qui nous est accessible. Et je vous invite à suivre la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, des versets 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leur dette. « Lequel des deux l'aimera le plus ?» Simon répondit « Celui... je pense auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui répondit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Depuis deux semaines, nous parcourons une série de prédications sur la question « Qui est Jésus ?» à travers les quatre évangiles. Et pour nous situer un petit peu dans la vie de Jésus, je vous propose de regarder cette frise pour revoir un petit peu les textes que nous avons déjà abordés ensemble. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, nous avons vu que Jésus est le Messie annoncé par l'Ancien Testament. Il est le Messie promis, et l'Église est son projet. Nous avons vu aussi que sa mission pouvait se résumer ainsi, souffrir, mourir et ressusciter. La semaine dernière, dans Marc 11, un épisode un peu plus loin, nous avons étudié l'arrivée de Jésus à Jérusalem, tel un roi, et plus précisément, un roi serviteur. Et le texte d'aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Luc, et cela se passe avant tous ces événements. Et les trois évangiles que je viens de mentionner sont ce qu'on a appelé des évangiles synoptiques, c'est-à-dire qu'ils présentent des similitudes, des ressemblances dans leur manière de raconter la vie de Jésus. Et c'est pour cette raison que nous retrouvons bien des moments de la vie de Jésus rapportés dans deux ou trois évangiles. Mais ce n'est pas le cas du texte que nous venons de lire. Luc est le seul à nous raconter ce moment que nous venons de lire. Un mot d'abord sur le contexte qui entoure notre passage. Au début du chapitre 7, Jésus guérit. Jésus ressuscite un mort. Du fond de sa prison, Jean-Baptiste envoie ses disciples pour savoir si Jésus est vraiment celui qui devait venir. Et là, la question de l'identité de Jésus se pose. Et juste avant notre texte, Jésus relève l'incrédulité des gens de son temps, notamment au verset 34. Eux qui le prennent pour un mangeur, pour un buveur, eux qui le prennent pour l'ami des pécheurs notoires, sans savoir qui il est vraiment. Pour plusieurs, Jésus fréquente des gens qui sont peu fréquentables, donc lui-même est peu fréquentable. Et dans notre texte, Luc nous présente effectivement Jésus comme l'ami des pécheurs, mais pas dans le même sens. Comme nous le voyons dans cette scène, Jésus est fréquentable. Jésus est accessible. Et une femme connue pour sa vie déréglée va pouvoir s'approcher de lui. Et je vous propose cet après-midi de plonger nos regards dans cette histoire où Jésus se révèle comme celui qui pardonne. Et que Dieu nous aide, comme Clément aussi l'a prié, que Dieu nous aide à saisir cette vérité. Et j'aimerais d'abord commencer par parler de ces deux pécheurs que nous avons dans notre texte. Deux pécheurs et également deux voix différentes. Dans cette histoire, nous avons affaire à deux personnages très différents, à deux pécheurs pour être exact. D'un côté, la femme, qui est qualifiée dans notre texte de pécheresse à deux reprises, et puis de l'autre, le pharisien, Simon, qui n'est pas moins pécheur, puisque tout être humain est pécheur devant Dieu. Et voilà leur point commun. Ils ont beau être différents, leur point commun est qu'ils sont l'un et l'autre pécheurs. Et pourtant, ils vont suivre deux voies bien différentes. Et j'aimerais commencer par Simon, au sujet duquel nous apprenons trois choses. La première, au verset 36, est qu'il est celui qui invite Jésus à manger. Nous sommes bien loin de l'image des pharisiens hostiles à Jésus. Nous sommes bien loin de l'image des pharisiens qui cherchent à lui tendre un piège ou qui cherchent un moyen de le faire mourir. Ici, il semble que Simon considère au moins Jésus comme un maître. C'est ce que nous voyons au verset 40. Comme quelqu'un qui enseigne le peuple à marcher dans les voies de Dieu. Deuxième chose, nous apprenons que cette scène avec la femme pécheresse qui vient les déranger dévoile l'opinion que Simon a au sujet de Jésus. Et Luc nous partage ses pensées au verset 39. Simon se dit en lui-même, si cet homme était prophète. Simon a le jugement facile. Non seulement il juge Jésus, mais il juge également cette femme pour qui il n'a que mépris. Voyez dans quels termes il parle de cette femme. Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Voilà le mépris que Simon témoignait à l'égard de cette femme. Et il se disait que comment un homme comme Jésus, s'il est vraiment un homme de Dieu, comment pourrait-il se laisser salir par cette femme pleine de péché? La troisième chose que nous apprenons au sujet de Simon, c'est qu'il n'est pas l'hôte exemplaire. Si nous étions dans une émission, comme Un dîner presque parfait, c'est sûr que Simon n'obtiendrait pas la meilleure note. Il manque à ses devoirs d'hospitalité en ne proposant pas d'eau à Jésus pour se laver les pieds, verset 44. À cette époque où on marchait essentiellement en sandales, nous avions rapidement les pieds pleins de poussière. Et il était donc d'usage de proposer à ses invités de se laver les pieds. Aujourd'hui, peut-être pas en été, mais en hiver, aujourd'hui, nous proposons plutôt des chaussons pour nos invités. Jésus relève aussi que Simon ne lui a pas donné de baiser de bienvenue à son entrée, verset 45. De nos jours, mais pas en ce moment, ce serait l'équivalent de la bise ou de la poignée de main. Et puis Simon n'est pas allé jusque-là. Il ne lui a pas souhaité cette bienvenue traditionnelle. Et enfin, troisième reproche de la part de Jésus, Simon n'a pas versé d'huile parfumée sur la tête de son invité, verset 46. Ce n'était pas une obligation, mais si vous vouliez honorer un invité, c'était un geste approprié. Alors j'ai essayé de chercher un équivalent aujourd'hui. À notre époque, cela pourrait correspondre à sortir la belle vaisselle pour l'occasion, pour montrer à vos invités qu'ils sont spéciaux. En considérant ce qui nous est décrit par Simon, nous pouvons réaffirmer que Simon est bien un homme pécheur. Et le problème dans cette histoire est qu'il ne voit pas à quel point il l'est. Le problème dans cette histoire, c'est que lui qui juge facilement Jésus et cette femme, il ne voit pas combien il est pécheur. Et son attitude vis-à-vis de Jésus révèle qu'il n'a aucune intention d'honorer Jésus plus qu'un autre invité. Son attitude nous révèle qu'il ne sait pas qui est vraiment Jésus. Mais maintenant, regardons du côté de la femme. Et je relèverai également trois éléments à son sujet. La première chose qui nous est évoquée n'est pas très valorisante. En tout cas, pas valorisante pour des oreilles modernes et féministes. On dit de cette femme qu'elle est pécheresse, verset 37. Même Simon connaît sa réputation. Pour lui, cette femme est une pécheresse dans le sens où c'est une femme qui est connue pour ses péchés, même si nous ne savons pas lesquels, et qui est donc quelqu'un qui est peu fréquentable. Quelqu'un qui est surtout à éviter. La deuxième chose concernant cette femme, verset 37, c'est qu'elle sait que Jésus est à table chez ce pharisien. Ce repas devait être un événement suffisamment important. Les spécialistes, les commentateurs suggèrent qu'il s'agissait sans doute d'un banquet. Un banquet où l'on mangeait en étant allongé. Et j'aimerais vous montrer une image pour que vous puissiez imaginer dans quelle position étaient les invités lors d'un banquet. Alors ici, on a plutôt un banquet à la romaine, mais c'était à peu près ça. On était allongé, les tables étaient au centre, et puis on pouvait manger de cette manière-là. Mais vous comprenez avec cette configuration pourquoi cette femme avait facilement accès aux pieds de Jésus, sans avoir à déranger les autres invités. Même si elle n'a pas été invitée à ce banquet, elle compte s'y rendre avec un vase contenant du parfum. Et puis la troisième chose, Luc nous décrit tous les gestes qu'elle fait lorsqu'elle se retrouve aux pieds de Jésus. Verset 38, elle se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Tout est détaillé. Et c'est une séquence émotion ici. Elle pleurait aux pieds de Jésus. Cette femme est là, près de Jésus, et elle pleure. Elle est tellement émue. Et chaque geste qu'elle fait témoigne de son profond respect pour Jésus. Contrairement à Simon, elle sait honorer Jésus en embrassant les pieds de Jésus. Elle sait l'honorer en versant du parfum dessus. Elle ne le fait pas pour tous les invités, uniquement pour Jésus. Une chose est certaine, ses gestes ne sont pas passés inaperçus. Et dans une répétition volontaire, Luc nous rapporte les paroles de Jésus, qui dit à Simon tout ce que cette femme a fait pour lui. Je vous montre juste le comparatif. Jésus relève exactement tous ces gestes que cette femme a fait pour lui. Jésus accueille chacun de ces gestes d'amour. Ce sont des gestes d'amour. C'est ainsi qu'il les interprète devant Simon. En considérant ce qui nous est décrit de cette femme, nous pouvons réaffirmer que cette femme est bien à placer dans la catégorie des pécheurs, comme Simon. Pourtant, elle emprunte une autre voie, en venant exprès voir Jésus et lui exprimer son amour, lui exprimer sa reconnaissance. Qu'est-ce que Jésus a bien pu faire pour cette femme pour qu'elle agisse ainsi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir à présent. Nous ne savons pas comment cette femme connaît Jésus. Nous sommes dans la deuxième partie concernant la voie du pardon. Nous ne savons pas comment cette femme connaît Jésus. A-t-elle juste entendu parler de lui? Ce serait un peu léger pour expliquer son attitude. l'a-t-elle entendu enseigner en public et en particulier au sujet du pardon? C'est possible. Était-elle présente quand Jésus a dit précédemment à un homme paralysé, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Nous lisons cela dans Luc 5, verset 20. Était-elle présente à ce moment-là quand Jésus a dit cela? Peut-être. En tout cas, elle a su que cet enseignant, Jésus, pouvait libérer les hommes et les femmes de leur culpabilité. Elle a su que Jésus pardonne les péchés. Et dans Luc 5, comme ici dans Luc 7, la réaction des autres est similaire. Les gens se demandent, mais qui est cet individu, qui est ce Jésus qui ose pardonner les péchés alors que seul Dieu peut pardonner les péchés? Et nous en revenons à cette fameuse question, qui est Jésus? S'il n'est pas ce qu'il dit être, alors c'est un menteur. Et notre Église peut fermer dès la fin du culte, parce que nous n'avons aucune raison de nous rassembler. Mais nous croyons que Jésus dit la vérité. Et il est intéressant de voir comment il répond à Simon dans les versets 40 à 47. Simon ne comprend pas les gestes de la femme pécheresse. D'un point de vue extérieur, c'est une femme de mauvaise réputation qui touche un maître censé enseigner les voies de Dieu. Pour comparer un peu la distance qu'il y aurait entre ces deux personnes, c'est comme si une mendiante touchait un roi. Et Jésus lève rapidement l'ambiguïté. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Voyez l'approche de Jésus qui appelle son hôte par son nom. Et ce que Jésus va dire est d'une importance capitale pour Simon comme pour nous. Écoutons encore Jésus, verset 41. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l'aimera le plus? Par cette simple parabole, Jésus interpelle Simon sur plusieurs réalités. Nous comprenons d'abord que les débiteurs correspondent à nos deux personnages, la femme pécheresse et Simon. Le créancier, c'est celui à qui ils doivent des dettes, c'est-à-dire Dieu. Et les dettes en question, ce sont les péchés commis contre Dieu. Et malgré ces dettes, et parce que de toute manière les débiteurs ne pouvaient pas rembourser ce qu'ils devaient, le créancier décide, dans sa grande bonté, de remettre à tous deux leurs dettes, c'est-à-dire d'annuler leurs dettes. Si vous avez déjà contracté un crédit pour un achat immobilier, par exemple, vous savez ce que signifie une dette. Imaginez ce que cela représente si du jour au lendemain, votre banquier vous appelle pour dire qu'il n'y a plus besoin de rembourser votre prêt. Intérieurement, vous allez dire « Alléluia ». Ce serait super, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une différence avec la parabole. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas forcément dans l'impossibilité de payer quand il s'agit d'un prêt. Mais dans la parabole, les deux personnages, les deux débiteurs, n'avaient pas de quoi payer, n'avaient pas de quoi rembourser leur créancier. Et pourtant, le créancier fait grâce. Il annule la dette. Et celui qui n'a plus de dette est libre. Et que pensez-vous de la question de Jésus à la fin de son histoire? Il me semble que c'est une question assez inattendue. Il pose la question suivante, lequel des deux l'aimera le plus? Si votre banquier annule ce que vous devez payer, allez-vous l'aimer? Peut-être. Vous allez sans doute l'aimer un peu plus. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est cette comparaison que Jésus fait. Lequel des deux l'aimera le plus? Et Simon ne se trompe pas lorsqu'il dit que c'est celui qui devait le plus qui se montrera le plus reconnaissant, le plus aimant. Et en racontant cette parabole, Jésus est bien en train de comparer Simon le pharisien, pécheur, et cette femme, pécheresse. D'ailleurs, il continue la comparaison, et nous l'avons déjà vu, donc je ne reviens pas là-dessus. Tantôt, Jésus valorise cette femme, valorise ce qu'elle a fait, et tantôt, il met l'accent sur ce que Simon a manqué de faire. Et regardez encore l'attitude de Jésus au verset 44. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, donc il se tourne vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ?» Il la montre en exemple. Jésus fait bien une comparaison et d'une manière très claire et très directe, il dit à Simon, « Cette femme que tu méprises tant dans ton cœur a compris quelque chose que tu n'as pas compris. » Non seulement Simon n'a pas compris ce que cette femme était venue faire, mais surtout, il n'a pas saisi véritablement ce qu'est le pardon de Dieu. Et ce qui fait obstacle dans son cœur à ce moment-là, c'est qu'il ne sait pas qui est vraiment Jésus. Il ne voit pas combien, lui, il est pécheur. Et dans quelques instants, Jésus va révéler qui il est, lui qui pardonne les péchés. Or, seul Dieu fait cela. Seul Dieu pardonne les péchés. Est-ce à dire que Jésus est Dieu ? Nous le croyons en tout cas à l'église de Saint-Maur. Nous croyons que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes et des femmes. Il est la voie du pardon lorsqu'il dit à cette femme, comme une confirmation au verset 48, « Tes péchés sont pardonnés ». Il est la voie du pardon. Il est en train de dire à cette femme, tu n'as plus à culpabiliser au sujet de tes péchés. Ce que tu as fait de mal est pardonné. Je t'ai pardonné. Cette femme a expérimenté le pardon de Dieu. Elle qui voyait le mal dans lequel elle s'était enfermée a vu en Jésus quelqu'un qui pouvait la libérer. Tes péchés sont pardonnés. C'est une parole tellement libératrice. Non seulement pour cette femme, mais aussi pour nous. Pour nous qui sommes pas moins pécheurs. Tes péchés sont pardonnés. Et en réalité, tout être humain a besoin de connaître ce pardon de la part de Dieu. Et il me semble que le verset clé de ce passage, le verset 47, nous dit encore quelques enseignements. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. La deuxième phrase est à prendre dans un sens négatif. Celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Dans un sens négatif, comme un exemple à ne pas suivre. Celui ou celle qui considère qu'il a peu de choses à se reprocher aura plus tendance à être arrogant, aura plus tendance à se montrer supérieur aux autres, aura plus tendance à juger comme l'a fait Simon et finalement à ne pas beaucoup aimer. Par contre, celui ou celle qui mesure la grandeur du pardon de Dieu ne manquera pas d'être reconnaissant, comme cette femme, ne manquera pas d'aimer beaucoup. Souvenez-vous encore de la question de Jésus. Lequel des deux l'aimera le plus ? Mes amis, l'exhortation de cet après-midi concerne l'amour, notre amour pour celui qui a bien voulu nous pardonner pour le mal que nous avons fait. Aimons Jésus qui nous a tant pardonné. Voilà l'exhortation de cet après-midi. Soyons celles et ceux qui l'aiment le plus. Soyons celles et ceux qui ont beaucoup d'amour pour lui, parce que nous avons été beaucoup pardonnés dans notre vie. Choisissons la voie de l'amour. D'une certaine manière, quand nous lisons cette histoire, nous finissons par nous identifier à l'un des personnages. Est-ce que nous ressemblons plus à Simon, avec son esprit de jugement et son aveuglement sur ce qu'il est vraiment ? Ou bien est-ce que nous ressemblons à cette femme qui reconnaît bien volontiers qu'elle mérite le nom de pécheresse, et en même temps qui reconnaît la grâce de Dieu. Alors je vous propose de suivre cette voie de l'amour à travers trois applications. La première est de considérer où nous en sommes. Bien que certains d'entre nous soient chrétiens depuis un moment, ils remarquent avec lucidité qu'ils pêchent encore. Peut-être moins qu'avant, mais ils pêchent encore. Se repentir, c'est-à-dire reconnaître que l'on a fait fausse route par rapport à ce que l'on sait de la volonté de Dieu, reconnaître cela et revenir sur le droit chemin, c'est cela, se repentir. Et c'est une nécessité quotidienne, chaque fois que le Saint-Esprit nous indique nos défaillances. Mais je vous l'avoue, je ne confesse pas tous les jours mes péchés devant Dieu. Et j'ai tort. Une journée peut passer sans que je demande une seule fois pardon à Dieu. J'ai tort parce qu'il est certain que durant n'importe quelle journée, j'ai été coupable d'une mauvaise pensée, d'une mauvaise parole, d'un quelconque péché. Si nous ne voulons pas peu à peu devenir comme Simon, au point de ne pas voir la réalité de notre état de pécheur, il nous faut nous repentir, plutôt deux fois qu'une. La femme pécheresse a dû pleurer sur elle-même. Mais les pleurs qu'elle exprime ici lors de ce repas sont plutôt ceux de la reconnaissance. Et j'ai entendu que certains chrétiens avaient la bonne habitude de terminer leur journée par la confession de leurs péchés. Alors il ne s'agit pas de s'auto-flageller devant Dieu. Il ne s'agit pas de culpabiliser à mort devant Dieu, mais plutôt de reconnaître devant celui qui est saint, devant celui qui est parfait, reconnaître notre incapacité chronique de correctement faire ce qui est bien et de le reconnaître tous les jours. Et nous avons besoin de son pardon, et pas seulement au début de notre vie chrétienne, mais tout au long de notre vie chrétienne. La deuxième application est de considérer le grand pardon dont nous sommes les bénéficiaires. Voyez encore l'émotion de cette femme, à quel point elle a compris qu'elle était pardonnée. Et c'est pour ça qu'elle se comporte de cette manière-là. Bien sûr, elle ne savait pas que Jésus allait mourir à la croix pour elle. Mais elle savait qu'elle était pardonnée. Jésus lui a accordé son pardon, par anticipation, en vertu de ce qu'il allait faire à la croix. Et c'est pour cette raison qu'il peut lui dire aussi, au verset 50, « Ta foi t'a sauvé. Pars dans la paix. » Et en ce qui nous concerne, nous avons besoin aussi, avec l'aide de la parole de Dieu, d'être lucides sur la nature même du péché. Le péché a toujours de l'effet sur nous, même si nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons nous empêcher de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est un Dieu qui fait grâce, que Dieu est un Dieu qui pardonne, alors même qu'il pourrait décider d'appliquer immédiatement sa juste sentence. Et sa juste sentence pour le péché, c'est la mort. Et dans ce cas, il aurait raison d'agir ainsi. Mais comme nous le lisons également dans Ézéchiel 18-23, que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de voie. Voilà qui est notre Dieu. Et alors que Dieu, dans sa grâce, nous accorde le pardon, nous sommes invités à changer de voie. Nous sommes invités à nous détourner de ce qui est mal, du péché que nous avons l'habitude de commettre jusque-là. Et ce qui fait que le pardon de Dieu est si grand, c'est le prix que cela a coûté. Le prix que cela a coûté pour que le pardon soit possible. Et nous l'avons chanté précédemment, déjà. De notre côté, nous n'avions rien à payer, d'ailleurs, parce que notre dette était déjà trop élevée. Mais du côté de Dieu, c'est Jésus qui a tout payé. Il a payé toutes les dettes, passées, présentes et futures. Il a payé toutes les dettes. Quel amour, quelle grâce. Et de cette manière-là, à cause du sacrifice de Jésus, le pardon de Dieu est toujours accessible. Et j'aime me souvenir de ce verset qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Autrement dit, sans sacrifice satisfaisant, sans une mort qui remplace notre mort, le pardon ne peut être accordé. Dieu ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Autrement, il serait un Dieu injuste. D'où ce système des sacrifices dans l'Ancienne Alliance, pour épargner, pour pardonner aux pécheurs. D'où le sacrifice de Jésus dans la Nouvelle Alliance, pour nous épargner, pour nous pardonner. Alors, est-ce que tu mesures la grandeur du pardon qui t'est accordé lorsque tu mets ta confiance en ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu mesures la grandeur de ce pardon? Est-ce que son pardon est ton plus grand sujet de reconnaissance? Et enfin, la dernière application que nous pouvons tirer de notre texte, c'est d'emprunter avec assurance cette voie de l'amour. Nous avons vu comment la femme pécheresse a exprimé son amour et sa reconnaissance à Jésus. L'amour de cette femme est le fruit, la conséquence du pardon qu'elle a compris et reçu. Je vais être plus direct. Ce que Jésus veut ou attend de notre part, c'est que nous l'aimions beaucoup. Plus nous comprendrons son pardon, plus nous saurons comment l'aimer. Est-ce que tu t'estimes plus proche de cette femme pécheresse qui témoigne son amour à Jésus, ou bien est-ce que tu t'estimes plus proche de Simon dans ta relation avec Jésus? Si Jésus est celui qui t'a déclaré « tes péchés sont pardonnés », vas-tu l'aimer pour cela? Sa grâce est immense. Et quelle est la taille de notre amour pour lui? La semaine dernière, je lançais la question « qu'as-tu fait pour lui ?» Aujourd'hui, la question est « à quel point aimes-tu Jésus ?» C'est certain, nous ne méritons pas son amour, mais lui mérite le nôtre. En semaine, nous avons pris l'habitude de discuter du texte biblique avec Pasteur Nguyen, et je reprends une de ses formules qu'on a eue dans la discussion et que je trouve significative, en lien avec cette exhortation. Il m'a juste suggéré cela, « Travaille ton amour. » Travaille ton amour pour Jésus. Ne le laisse pas s'éteindre à cause des préoccupations de ce monde. Ne le laisse pas s'éteindre à cause du jugement que tu peux porter à l'égard des autres. Travaille ton amour. Et si tu estimes ne pas avoir grand-chose à te faire pardonner, la conséquence est que tu aimeras peu le Seigneur, seulement d'une manière superficielle. Jésus mérite plus que ça. Travaille ton amour, entretiens ton amour pour lui, offre-lui ton temps et le meilleur de ton temps. Offre-lui ton énergie pour le servir dans ta famille, à l'école, au travail, à l'église. Offre-lui tes compétences pour que l'évangile touche plus de personnes. Offre-lui ton argent pour les missionnaires, pour les chrétiens persécutés, pour les personnes défavorisées. Travaille ton amour, motivé par son pardon. Et n'attends pas un jour de plus. J'aimerais terminer par une histoire. L'histoire d'un jeune homme habitué à mentir, habitué à voler, habitué à boire. Il raconte lui-même que déjà à l'âge de 14 ans, il sortait pour boire. Et un soir, ce jeune homme, qui avait à ce moment-là 25 ans, étudiant en théologie, mais sans être converti, se retrouve dans une réunion où des chrétiens lisent la Bible. Il se retrouve dans une réunion où les chrétiens prient, où les chrétiens chantent des cantiques, où les chrétiens écoutent un sermon lu. Et ce qui a marqué ce jeune homme ce soir-là, c'était le fait de voir quelqu'un se mettre à genoux pour prier. Il n'avait jamais vu ça auparavant. Et en rentrant chez lui ce soir-là, il sait que quelque chose a changé en lui. Il sait qu'il n'a plus envie de retourner à sa vie d'avant. Et il évoque dans un de ses écrits ce qu'il a compris depuis ce jour. Et je le cite. « J'ai compris un peu la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est mort sur la croix et a souffert une telle agonie dans le jardin de Gethsémané. Il m'a été donné de voir que s'il avait porté la peine que nous avons méritée, c'est afin que nous n'ayons plus à la porter nous-mêmes. Et donc, comprenant dans une certaine mesure l'amour de Jésus pour mon âme, je me suis senti pressé de l'aimer en retour. » Ce jeune homme en question, nous le connaissons sous le nom de George Müller, un évangéliste, un missionnaire qui a œuvré en faveur des orphelins dans l'Angleterre du 19e siècle. C'est son témoignage, c'est sa compréhension de l'amour de Jésus. Il n'avait pas d'autre choix, il l'exprime dans cette citation, il n'avait pas d'autre choix que d'aimer Jésus en retour. Et qu'en est-il de nous ? Un créancier, une remise de dette, une même grâce. Deux débiteurs, deux manières de vivre. La reconnaissance d'un côté, le manque de reconnaissance. La voie de l'amour, la voie de l'endurcissement. Et face à Jésus, nous nous situons forcément quelque part. Le Seigneur nous encourage cet après-midi à emprunter la voie de l'amour. Aimons Jésus, qui nous a tant pardonné. Aimons-le plus que ne l'a fait Simon. Aimons-le comme cette femme pécheresse, donnée en exemple dans la Bible pour nous. Qui est Jésus ? Jésus est celui qui nous pardonne. Il a donné sa vie pour nous accorder cette grâce. Et en le ressuscitant, Dieu le Père a accepté le sacrifice de son Fils pour le genre humain, pour le genre pécheur. Et nous avons donc, avec cette résurrection, la certitude historique qu'à chaque fois que nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne. Non pas parce que nous aurions formulé une meilleure prière, une belle prière, mais uniquement parce que Jésus prie pour nous, parce que Jésus intercède pour nous en notre faveur. Et c'est ce Jésus que nous sommes invités à connaître encore et encore. C'est ce Jésus que nous sommes invités à aimer encore et encore. Amen. Prions ensemble. Notre Père Céleste, merci pour ta parole qui renouvelle toujours notre intelligence, qui nous permet de pouvoir mieux comprendre ce que tu veux nous dire. Et merci parce que c'est grâce à ton esprit que nous pouvons saisir tes paroles. Après tout, comment pouvons-nous comprendre les paroles d'un Dieu qui est si grand, si ce n'est avec ton aide ? Et merci Seigneur de nous faire comprendre qui est Jésus, car c'est tellement important pour nous. Et si nous nous disons chrétiens, eh bien, nous devons avoir une réponse à cette question. Et effectivement, Jésus est celui qui pardonne. Jésus est aussi celui qui a donné sa vie pour que tu nous pardonnes. Oui Seigneeur, nous voulons encore te dire et te demander pardon pour nos transgressions, pour chaque fois que nous ne t'obéissons pas volontairement ou involontairement. Seigneur, nous confessons devant toi que nous sommes tous des pécheurs, qu'aucun d'entre nous ne méritons quoi que ce soit de ta part, mais dans ta grâce et dans ton amour, tu as bien voulu nous chercher. Et merci Seigneur pour tous ceux et toutes celles que tu as déjà sauvés. Et nous prions pour tous ceux et toutes celles que tu appelles encore à toi, qu'ils puissent répondre à ta voix, qu'ils puissent accepter le sacrifice de Jésus pour eux. Parce que c'est ainsi que ton pardon est possible. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir aimer Jésus plus que nous ne le faisons jusqu'à maintenant. Accorde-nous que, à la sortie de l'Église, nous puissions immédiatement mettre tout cela en pratique. Et déjà, dès la fin du culte, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir être celles et ceux qui aiment Jésus le plus. Et tout cela, nous pouvons le faire avec ton aide. Tout cela, nous pouvons le faire uniquement parce que ton esprit est en nous et que tu nous permets de pouvoir te donner tout, absolument tout, de pouvoir nous abandonner à toi. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.